Dans la vie, il y a deux possibilités, subir ou diriger sa vie. En écoutant BTLV, vous avez choisi votre camp. Ici, pas de censure, pas de pub. Seulement une autre information que celle délivrée à longueur de journée par l'ensemble des médias. Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs, 21h minuit, sur BTLV.
Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, surtout vous ne changez rien, vous le savez, les 23 et 24 mai prochains, j'aurai le plaisir d'être à Montréal pour co-animer le congrès UFO 501, témoignages, documentation, table ronde, période de questions, sondages, conférenciers, ufologues des quatre coins du monde, tout cela à l'initiative de Richard Glenn, et nous sommes avec Richard.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Bonsoir mon Richard.
Oui, bonjour Bob.
Comment ça va?
Ah ben ça va très bien, on a très hâte de vous recevoir, toi et Mathieu. Ici, on peut dire que le printemps est arrivé cette semaine.
Ah ben il était temps quand même, hein?
Ben, c'est ça, on leur a dit, là, écoute, Bob s'en vient, là, puis à Paris, le mois de mai à Paris, paraît-il, c'est merveilleux.
Hein? Ah ben oui, là, tu sais, je me suis baladé cet après-midi en scooter et sur les quais, et je trouvais que les gens étaient souriants. Tu sais, à Paris, il y a plein de ponts qui enjambent la Seine, et tous les ponts maintenant sont ornés de cadenas que les amoureux accrochent en espérant que leur amour ne sera jamais rompu et que leurs liens ne seront jamais rompus. Donc je me disais, c'est quand même une ville très très belle, très romantique, Paris. Tu vois, et avec le soleil qu'il y a en ce moment, c'est des plus agréables. Mais cela dit, Montréal, c'est pas mal non plus.
C'est un curieux de symbole que le cadenas pour le mariage. Alors, ben oui. ils se font prisonniers l'un l'autre.
Ouais. C'est ça.
Ah, ben oui, mais on dit que l'amour donne des ailes, mais là, ça a l'air qu'ils préfèrent rester dans la cage dorée.
Ouais. Ou alors, il faut la clé, hein. Pour s'envoler.
Oui, c'est ça.
Bon, dis-moi, mon Richard, on va évoquer, bien sûr, l'ufologie qui te tient tant à cœur et qui sera au cœur donc, de ce congrès UFO 501. Et on va évoquer l'impact du contact.
Oui, un beau titre, hein? Impact du contact.
Énorme.
Évidemment, on joue sur la phonétique, mais il y a tout à fait derrière le phénomène extraterrestre, pour ceux qui sont contactés, un choc. Un impact, un peu comme une automobile qui frappe un mur, ça dérègle notre vie, ça dérègle notre champ psychique, ça dérègle notre quotidien, parce que d'abord, un peu comme l'invité que tu as reçu il y a très peu de temps, qui nous a parlé du parallèle à faire entre la franc-maçonnerie et l'ufologie.
Oui, c'est vrai.
Ben oui, alors Pascal Fechner a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Lorsque on est amené à devenir franc-maçon, c'est pas l'individu qui va frapper à la porte pour dire « Je voudrais devenir franc-maçon, je suis prêt à signer des papiers. » Non, non. Il faut être adombré, il faut être choisi, il faut être recruté par des francs-maçons. Mm-hmm. Comme le contacter, c'est pas lui qui va prier pour demander le contact avec des extraterrestres. Un jour, ça peut lui arriver. On pense que ça arrive comme par hasard, on sait pas pourquoi. Comme celui qui est choisi par des francs-maçons parce qu'il a déjà manifesté des attitudes tout à fait particulières et utiles à la franc-maçonnerie et pour le phénomène extraterrestre. Le parallèle est excellent. Moi, j'ai adoré sa conférence qu'il a fait, l'entretien qu'il t'a accordé. Mm-hmm. Je répète, son nom, c'est Pascal Fechner.
Oui, c'est le responsable des repas ufologiques de Marseille.
Ah oui, hein? Bon. Ah ben ici au Québec, on a notre Louise Dionne qui aussi fait fonctionner des repas ufologiques à travers toute la province de Québec.
C'est magnifique.
Ah oui, ici, elle appelle ça plutôt les soupers expérientiels, justement pour se dégager seulement de l'ufologie en allant dans le domaine de expérientiel et probablement à ta venue ici au Québec au mois de mai, là, le 22, le vendredi qui va précéder le 23 et le 24 du congrès ufologique. On aurait probablement Mario Beauregard avec nous, qui est un neurologue spécialiste justement de le monde de l'expérientiel. Et l'ufologie, c'est aussi un univers d'expérientiel. La différence entre l'expérimental et l'expérientiel. L'expérimental, c'est qu'en laboratoire, on répète les mêmes expériences et dans les mêmes conditions, on devrait obtenir les mêmes résultats. Alors que l'expérientiel, c'est l'expérience subjective, personnelle, unique, qu'on ne peut pas reproduire à volonté. Quelqu'un qui a une télépathie, qui a une intuition, quelqu'un va lui téléphoner, il pense à quelqu'un, tout d'un coup le téléphone sonne, « Ah ben tiens, justement, je pensais à toi. » Ouais, mais qu'est-ce qui peut nous prouver que c'est vrai? Des fois, on peut faire ça gentil, mais la réalité, c'est qu'en laboratoire, on est obligé de peser, de mesurer, d'avoir des paramètres objectifs. Alors que la vie nous fait vivre des expériences qui sont subjectives, et c'est là qu'on va parler d'expérientiel plutôt que d'expérimental. Bon, alors, pour revenir au phénomène OVNI, c'est sûr que je prépare le congrès, et ça va être un congrès un peu spécial. Tu sais qu'on va être diffusé simultanément sur Internet.
Bien sûr.
Ce qui va permettre à des gens de partout dans le monde de nous suivre, de réagir, d'écrire sur les réseaux sociaux, le chat qu'on appelle, là. Et à ce moment-là, on aura Jean-François qui est le co-animateur et même celui qui a eu l'idée originale au départ de faire des vidéos Orandia, puisque notre compagnie de production s'appelle Orandia. Eh bien, lui va prendre les messages des gens qui vont suivre le congrès à la maison par Internet, car on a autant d'abonnés ou de gens qui ont pris, on appelle plus ça le billet, mais la passe pour avoir le mot de passe pour suivre le congrès. Il va nous entretenir à peu près toutes les 15-20 minutes ou une demi-heure après chaque intervenant. Parce que les intervenants ne parleront pas pendant une heure de temps sans arrêt. Il va y avoir un peu le principe des TED, c'est-à-dire tu viens, tu as le micro, tu parles pendant 20 minutes, puis après ça, on passe à la période de questions et les commentaires des gens à la maison. Alors, je recommande bien sûr aux gens de nous suivre dès le début parce qu'on a un invité vedette fantastique à l'ouverture du congrès. Oui, je sais que tu as mis le doigt dessus.
Non, mais vas-y, dis-moi. Moi, tu me fais saliver.
Non, mais l'organisme le plus officiel qu'on trouve actuellement ici, officiellement là, sur Terre, là, dans le domaine de l'ufologie, c'est le...
Le GEPAN.
Évidemment.
Et en fait, j'ai discuté avec Xavier Passot qui m'a dit qu'il nous ferait un petit coucou.
Eh oui. Alors, c'est formidable. Et moi, j'ai interviewé à l'époque J. Allen Hynek. C'était le grand pape de l'ufologie, vous vous souvenez, Allen Hynek. D'ailleurs, on le voit dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, lui-même en personne, qui fait une apparition très courte et en tenant sa pipe au moment où les extraterrestres arrivent sur la base militaire, là, au pied du Devil's Tower. Et Allen Hynek, bon, je l'ai rencontré à quelques reprises, je l'avais interviewé et il nous avait dit qu'on devrait suivre l'exemple de la France en ufologie. Ah, c'est bien, Ben oui, et il avait dit, parce qu'ils ont créé un organisme officiel d'État qui voit à prendre la chose au sérieux. Et les années ont passé, après Poher, il y en a eu d'autres, et maintenant c'est Xavier Passot qui a accepté. Alors c'est assez spécial, et moi je le remercie parce que c'est un homme qui ne sort pas souvent pour faire des sorties publiques rarement. Et il nous a déjà accordé une entrevue qui est enregistrée. Alors si jamais il ne pouvait pas se présenter en personne au moment du début du congrès, il nous a donné la permission de diffuser cet entretien qu'il m'a accordé, et à travers laquelle on va réaliser l'importance que porte le gouvernement français à l'ufologie. Et ce n'est pas évidemment des dossiers qui sont mystico-ésotérico-pétés. C'est l'expression qu'on utilise ici, là, en voulant dire c'est pas des visions, c'est pas des... Non, c'est du scientifique, là. Alors, donc, oui, on doit dire que le congrès va être de l'ufologie civile. On peut pas l'appeler une ufologie scientifique parce qu'on n'est pas des hommes de science. On peut pas dire non plus que c'est une ufologie militaire ou alors religieuse, parce que là, ça serait peut-être les mystiques et tout ça. C'est une ufologie civile, mais avec des investigations à la fois amateurs et professionnels. Parce qu'on a des intervenants qui sont des gens du domaine de la santé psychologique, etc. Bon, alors, j'allais dire donc qu'à ce congrès-là, qui aura lieu à l'hôtel Sandman. Alors, Sandman, c'est le marchand de sable.
Oui.
Tu te souviens, on en avait parlé, Mathieu nous avait mis la musique souvenir de Mr. Sandman, bring me a dream. Ben, bring me a dream, en français, ça veut dire amène-moi, emporte-moi en rêve.
Ben voilà.
Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen.
Magnifique chanson.
Ben oui, je sais, toi, mon Bob, t'as une autre version de Mr. Sandman qui est plus moderne.
Hein. Ouais, moi j'ai Sandman par America, mais ça, on l'a pas là, donc Mathieu l'a.
Non, mais c'est ça. Ben, ça prouve qu'on est vraiment deux générations. Ben oui, t'as l'âge de mon plus vieux, t'as l'âge de mon Stéphane. Alors, on est deux à deux époques, alors ça peut intéresser autant les gens de mon époque, des années 50, 60, et de les années 60, 70, ça c'est ton époque à toi, merveilleux. Bon, alors, pour revenir au phénomène OVNI, que je reprenais l'exemple de Pascal Fechner sur choisir des gens dans la population, les introduire, les initier, alors en franc-maçonnerie, mais en ufologie, c'est la même chose. Et là arrive la notion du grand secret. Faut pas dire les choses. C'est le code que les francs-maçons ont, le signe de la main, ouais, le regard, des yeux, etc., qui signifie que « Ah, t'en es un, moi aussi, bon, OK, on n'a pas besoin de parler. » Alors, les contactés font la même chose, mais à un niveau psychique. C'est-à-dire que j'ai découvert avec le temps, les gens qui ont eu de contact ont un comportement psychique différent des autres. Quand on dit que des gens peuvent, par leur tête, là, leur psyché, savoir s'il y a un phénomène OVNI à proximité qui se déroule présentement. Quand on dit, bon, ben, y a des gens qui ont vu une soucoupe volante, ou qui disent qu'il y en a une. Moi, j'ai reçu un téléphone un jour d'un de mes voisins ici au Mont-Saint-Hilaire qui me disait, Richard Glenn, dépêchez-vous, il y a une soucoupe volante au-dessus du Mont-Saint-Hilaire, venez vite, 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 allez voir. On se place en condition de pouvoir entrer en syntonisation, un peu comme une station de radio. On fait le AM, le FM ou le ET. Tu sais, tu choisis la longueur d'onde qui convient. Et là, pouf, oui, alors je suis sorti, j'ai été le retrouver à sa maison en la nuit avec un radar light, c'est-à-dire une lumière très puissante, là, et on faisait des signaux de lumière et ça répondait d'en haut. Alors, ce monsieur-là va probablement être là au congrès UFO 501 pour rappeler l'événement du bal de soucoupe volante, parce que c'est un peu comme dans le film Rencontre du troisième type, il n'y en avait pas qu'une. Il y en avait plusieurs qui circulaient au-dessus de la montagne et qui nous répondaient, une qui répondait régulièrement aux signaux que j'envoyais. Donc, oui, les contactés ont un contact psychique. Alors, les francs-maçons ont un contact physique. Alors, dans le domaine de l'ufologie, c'est très semblable à la franc-maçonnerie, et c'est étonnant qu'il y ait fait le rapprochement entre la maçonnerie, la franc-maçonnerie et l'ufologie. C'est, je pense, un des premiers qu'il fait. Et il y a vraiment des rapprochements à faire à plusieurs niveaux. Alors, il faut réécouter Pascal Fechner chez Bob, parce que l'entrevue qu'il t'avait accordée était formidable là-dessus. Alors, donc, pour les contacts avec le phénomène extraterrestre et l'impact que ça produit, on le sait, il y a une espèce de notion du silence de pouvoir aussi. Tellement qu'il y a des gens qui pensent que les francs-maçons, c'est eux qui dirigent le monde. J'ai l'impression qu'ils font partie d'une hiérarchie de pouvoir, c'est sûr, et occulte. Ça dérange parce qu'on se dit qui en fait partie, quel est leur agenda. Ben oui. Ici, au Canada, on vient de vivre l'événement du siècle. Et j'ai rencontré le grand responsable. Tu te souviens que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps notre Paul Hélieu national.
Bien sûr.
Et puis j'étais content de lui parler de toi et de
et d'ailleurs je ne te remercierai jamais assez pour ce message qu'il nous a adressé, qu'on a posté immédiatement sur le Facebook, sur notre site, et qui a fait beaucoup parler ici de ce côté-ci de l'Atlantique, hein. Les gens étaient ravis de ce message, et c'est vrai que venant de ce monsieur-là, c'était très important.
Et d'ailleurs, ce que je vais te conter maintenant, il y a un rapprochement qu'il a fait lui-même avec Paul Hélieu. Il s'agit de l'avocat constitutionnaliste canadien qui est d'origine italienne, mais qui œuvre ici au Canada depuis longtemps, Rocco Galati. Rocco Galati est l'avocat d'un groupe, on les appelle the people, les gens, le peuple, contre, tiens-toi bien, la Banque du Canada. Et le 26 janvier 2015, donc il y a quelques mois à peine, là, cette année, 26 janvier 2015, ils ont gagné. Le peuple a gagné contre la Banque du Canada. Et là, il faut comprendre qu'encore une fois, même ça est en relation avec le phénomène extraterrestre. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que depuis 1974, le Canada n'avait pas de dette envers les banques. Et seulement depuis 1974, on est passé d'à peu près zéro dette à 700 milliards de dollars de dette.
Ah oui, quand même.
C'est quelque chose qui a tourné rond, là, et qui n'a pas tourné rond.
Oui, c'est sûr.
Bon, alors, je ne sais pas chez vous si en France, vous entendez parler des PPP.
Non, c'est quoi ça?
Les partenariats publics privé. PPP. Partenariat public-privé. On utilise des systèmes étatiques pour, à un moment donné, proposer que des privés, des corporations, des individus s'impliquent financièrement, mettent leur savoir-faire dans une entreprise qui appartient à des gouvernements. Ça peut être municipal, provincial ou fédéral, comme on a au Canada. Et qu'à un moment donné, donc tout le monde partage les dépenses et les revenus. OK? Alors, une des choses qu'ils font maintenant, c'est qu'ils nous disent que les vieux ponts qui entourent la ville de Montréal, qui est une île, l'île de Montréal, c'est une île autour de laquelle il y a le fleuve Saint-Laurent qui circule. Et donc, les ponts sont rouillés, les ponts en béton s'effritent, il faut les construire à nouveau et on va les faire en PPP, partenariat public-privé, de façon à ce que les agents de la construction du pont, l'organisation de la fabrication du pont se fassent assez rapidement, parce qu'on sait quand c'est gouvernemental, ça s'étire, ça prend du temps. Alors oui, ils en ont fait un en PPP. Le PPP fait que il y a des gens qui ont mis leur expertise, leur capacité professionnelle pour que le pont se construise rapidement, ce qui a été le cas, et après, les gens qui traversent le pont doivent payer, soit par la fenêtre, on jette l'argent par les fenêtres, ou alors on a un petit médaillon qu'on appose sur l'automobile et c'est magnétique, c'est électronique, et en passant, bon, ben ça vient chercher ton argent. Autrement dit, tu déposes un montant d'argent et à chaque fois que tu passes sur le pont, bon, ben le montant d'argent diminue, puis à un moment donné, il faut que tu en remettes pour être sûr de pouvoir passer sur le pont sans être arrêté. Et si tu ne payes pas, d'une façon ou d'une autre, à ce moment-là, tu reçois pas une amende, mais des frais exorbitants pour être passé sur le pont sans avoir ou la petite pastille électronique ou d'avoir jeté ton argent par la fenêtre. Et on s'est aperçu que très rapidement, évidemment, le pont était très bien construit, excellent, très efficace, mais là, ça coûte très cher et les dépenses sont faites par le public et les revenus s'en vont dans le privé.
D'accord.
Quand on parle de PPP, on se retrouve avec un public-privé. Le public paye ce que ça coûte et le privé ramasse. Autrefois, on appelait ça les enveloppes brunes, c'est-à-dire des soudoyés par en dessous de la table. Tu sais, là, les amis du parti, je pense que le monde est pareil partout. Hein?
Oui, c'est sûr.
Alors, Rocco Galati, à la tête d'un mouvement qui s'appelle The Committee of Monetary and Economic Reform, ce qui veut dire comité monétaire et économique de la réforme. C'est devenu le mot COMER, commer. Commer, mais pas commer, une commère qui jacasse, là. Mais le commer. Alors, le commer a gagné contre la Banque du Canada. Et personne ici au Canada n'en a entendu parler. Les médias sont bloqués. On n'en parle pas. Alors que c'est la nouvelle pour les Canadiens, qui est extraordinaire. Moi, j'en parle chez Bob. On est rendu en France pour parler de ce qui se passe au Canada. Dont personne n'entend parler. Tu vois l'affaire.
C'est incroyable.
Ben oui. Alors, Rocco Galati me disait... moi, j'ai dit, c'est incroyable. Comment ça se fait que ça n'a pas été public? Il dit, c'est la grosse nouvelle. Tout le monde devrait entendre parler que le 25 janvier 2015, la Banque du Canada a été prise à défaut. Et on l'a prouvé en cours, eh bien, il me demande, il dit, combien vous pensez qu'il y a de gens qui contrôlent les médias au Canada? Alors, ben, moi, je me dis, je sais pas moi, une cinquantaine? Oh non, beaucoup moins. Ben, une quinzaine? Beaucoup moins, encore. Ah, mais là, un instant, c'est incroyable. Mais cinq. Et dans les cinq, il faut même considérer que le gouvernement lui-même contrôle tous les médias d'État, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici la radio et la télévision nationale, la Radio-Canada.
C'est ce qu'on a aussi.
Ben oui. Alors, à cinq personnes, enlevons celle du gouvernement, il en reste quatre privés, quatre individus, quatre sociétés ou quatre corporations qui contrôlent toute l'information qui est diffusée publiquement. Et une nouvelle comme celle que je viens de dévoiler chez Bob, ben, qui est à peine connu au Canada parce que quand même, il y a des réseaux indépendants, mais très peu, et ayant très peu d'obédience, très peu de pouvoir, personne n'entend parler. Alors, comment se fait-il qu'on n'en entende pas parler? Parce que moi, dans toutes les années de mes émissions, je me suis fait censurer une seule émission vraiment censurée, là, avec menace là, des autorités. C'est celle où on a reçu un spécialiste du côté monétaire, l'argent. Mm-hmm. Et puis, moi, je te recommande de recevoir notre ami Jean Morancy, qui est en Floride, qui parle très bien français, anglais, espagnol, portugais et d'autres langues. Et il pourrait te faire une entrevue complète sur le sujet du contrôle de l'argent à travers le monde. Parce qu'on dit souvent que les problèmes dans notre société proviennent du fait que c'est souvent monétaire. Parce que quand on arrive à un problème, on réalise souvent que, ah oui, mais si on avait plus d'argent, ah, on manque d'argent, ah, on est endetté, on peut pas faire ça parce que là, ben, ah oui, l'argent, là. Comme il nous disait d'ailleurs Galati, l'avocat, il disait, c'est comme l'union d'un homme et d'une femme. C'est peut-être le plus beau geste de la société d'accepter qu'un homme et une femme vivent ensemble, produisent des enfants et vivent leur vie. Et on peut même faire un compte de banque conjoint. Alors, on met tout, là. Son corps, son âme et son esprit ensemble, en communauté. Tu disais tantôt qu'à Paris, c'est le cadenas là, qui représente l'amour. Bon, eh oui, mais, comme il disait, c'est pas une question de contrat de mariage que la chose se fait. C'est parce qu'on a un consentement mutuel et une acceptation et on se respecte mutuellement. Il suffit que même avec un contrat de mariage, l'un des deux dise « Non, touche-moi plus. Non, je veux pas que tu rentres dans la chambre. Je veux pas te voir. » On comprend que ça vient de... Si l'autre insiste et exige une relation sexuelle parce que c'est sa femme, comme dans certains mouvements religieux qui disent que ta femme t'appartient comme ta chèvre ou ton chameau, là, à ce moment-là, ça devient un acte vil, un des pires, de s'imposer à l'autre. Même s'il y a un papier, un contrat de mariage, on va déchirer le contrat, on va faire un divorce, d'accord, mais on doit respecter la position de l'autre. Donc, autrement dit, Galati, l'avocat, disait, pour le contrat social qu'on a, nous, avec la banque, avec les gouvernements, c'est exactement la même attitude. Ça va très bien avec le peuple. Attention, le jour où il y a quelque chose qui ne marche plus, on peut mettre l'autre dehors de la chambre nuptiale en disant « je ne veux pas te voir, tu viens pas, ça ne marche plus ». Et si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Ça deviendrait l'acte le plus vil si on impose à une population une façon de procéder. Comme nous au Canada, depuis 1974, passer de zéro dette au niveau du gouvernement fédéral canadien, à 700 milliards de dollars entre 1974 et 2014, il y a quelque chose qui ne marche plus. Ou ben non, Hervé, ou le gars Hervé fou, il s'est acheté une Lamborghini, une Ferrari, il dépense tout l'argent du couple, et puis au bout de la ligne, il est endetté jusqu'au cou. Ben à un moment donné, il faut se dire, écoute-moi, là, ça ne marche pas. Tu sais, je veux dire, on ne sait pas. Alors, chez vous, en France, c'est sûrement la même chose. Vous êtes endetté, vous aussi, hein?
Bien sûr. Ah bah oui. On est plus qu'endetté en France, ça c'est sûr. On est. Alors, même si les gouvernements, en tout cas celui qu'on a actuellement, disent que ça va aller mieux, qu'on sort de la crise, etc., en tout cas, le chômage n'a jamais été aussi haut et la dette publique n'a jamais été aussi importante.
Ah, exactement. Il faut savoir que on est sous deux régimes juridiques. Je ne sais pas chez vous en France. Nous, on a ce qu'on appelle le droit coutumier, qui nous vient de l'Angleterre, là, le common law, et puis le droit maritime, qui nous vient de l'Amiralty Law. Ça se trouve à être l'Amiralty Law, c'est la loi de l'amirauté, c'est-à-dire la loi maritime. Mmh. Et là, tu me vois revenir avec le phénomène OVNI. Je t'explique pourquoi. Quand on parle des vaisseaux spatiaux, des soucoupes volantes, là, des vaisseaux. Là, on parle de maritime. On parle de vaisseau comme un vaisseau qui va sur l'océan. Et quand on arrive dans un pays, on passe par le port et ça nous prend un passeport pour passer le port. Donc, on est encore sur le plan maritime, le passeport. Alors que le droit coutumier d'Angleterre, qui veut que ce soit très, très simple, et c'est de ça dont on entend toujours parler quand on dit « Nul n'est censé ignorer la loi ».
Bien sûr.
Bon, ben, « Nul n'est censé ignorer la loi », c'est impensable quand on pense à toutes les lois qui existent. Il y a des centaines, des milliers de lois et de détails. Ça prend des avocats et même les avocats se spécialisent dans tel ou tel ou tel département, le droit économique, le droit familial, le droit, etc. Parce qu'il y a trop de lois. Donc, c'est illogique de croire qu'il faut qu'on soit des êtres humains à qui on impose de connaître toutes les lois, alors que même les spécialistes qui passent des années à l'université pour apprendre le droit n'arrivent pas à toutes les connaître, les lois. Ils se spécialisent chacun dans une branche. Alors, quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », ce n'est pas la loi de l'amirauté, le droit maritime qui parle du port avec le passeport, c'est le droit coutumier, le common law, et ça se résume en quatre éléments. Écoute bien, c'est ça qu'on ne doit pas ignorer. Un, évite de blesser les autres. Deux, n'endommage pas le bien d'autrui. Trois, respecte tes contrats, tes engagements et tes obligations. Quatre, maintiens la paix et l'ordre public. Point. C'est ça, les lois qu'on ne doit pas ignorer. On doit savoir qu'on doit respecter l'autre, qu'on doit respecter ses engagements et qu'on doit aider à maintenir la paix et l'ordre public. Ben, c'est clair. Là, on peut comprendre, nul n'est censé ignorer cela. Nous, en ésotérisme, on rajoute, nul n'est censé s'ignorer. Tu sais, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'était la fameuse formule des Grecs dans le temple initiatique. Ben, nul n'est censé s'ignorer, c'est la première chose. Nul n'est censé ignorer la loi, parce que là, c'est en relation avec les autres. Et on pourrait rajouter, nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. C'est-à-dire, il existe ce qu'on pourrait appeler une entité supérieure, suprême, mais pas une entité avec une barbe, là, puis un être. C'est drôle de parler d'un être, parce que, tu sais, la fameuse formule de Shakespeare, alors c'est « to be or not to be », alors qu'on peut pas ne pas être. Tu es, mais il faut savoir être qui ou être quoi. C'est ça la question. That is the question. Alors, on revient donc au phénomène OVNI en passant par la banque, par l'argent, par la dette. Parce que quand on est un Français qui naît, un enfant qui vient de naître, il est endetté. Hein? Tout le monde est endetté en naissant. Autrefois, la religion nous disait qu'on naissait avec le péché originel. Ben, nous, quand on est dans une société endettée, nos descendants sont endettés, ils devront gagner leur vie. Tu te rends compte qu'à quel point on est comme biaisé dans la réalité sociale dans laquelle on est. Alors, l'impact du contact, tel est le thème de notre rencontre aujourd'hui, Bob, l'impact du contact, c'est quand tu es contacté, tu vis en relation avec un autre monde. Et quand on est en relation avec un autre monde, les paramètres, la façon de voir la vie, les relations entre les êtres ne sont plus les mêmes que quand t'es pas contacté, tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu gagnes ta vie. Mais Bob, j'ai hâte de vous voir les deux parce que c'est très dynamique ce qui se passe ici au Québec. Depuis le début de l'année 2015, puis tu vas voir, je reviendrai encore au phénomène extraterrestre, j'entretiens mon public tous les mois, comme je le fais à l'habitude, sur le principe du jardin. Un jardin, c'est un endroit où on cultive les fleurs, les légumes, les fruits. Et j'ai compris que la symbolique est merveilleuse en rapport avec le phénomène extraterrestre. Le tout commence dans une serre au printemps, avant même que la neige soit toute fondue et puis que les journées soient acceptables pour les fruits et les légumes qu'on va faire pousser d'abord dans une serre ou dans la maison. Alors ça, la serre ou la maison, ça se trouve être comme le jardin d'Éden, le paradis terrestre. Hein, c'est tout sous contrôle. La météo est idéale dans la maison, l'éclairage on le contrôle, l'humidité, l'air, l'eau, tout est sous contrôle. D'ailleurs, le principe alchimique, c'est quoi? C'est de tout transformer en or. Et en français, c'est merveilleux parce qu'il faut le savoir que la langue française, c'est la langue reconnue par le phénomène extraterrestre comme la langue de la relation internationale de la Terre. Ce n'est pas l'anglais. L'anglais, c'est une langue populaire, mais ce n'est pas la langue qu'on pourrait appeler classique, comme le latin était la langue classique autrefois. Avant, il y avait le grec. Maintenant, c'est le français. Et les formules officielles des Nations Unies, la version qui est utilisée pour comprendre le message dans des formules, des traités gérée par les Nations Unies, c'est la version française.
D'accord.
On considère que c'est la langue la plus précise. C'est la langue utilisée aux Jeux olympiques.
Bien sûr, bien sûr.
Dans tous les pays, quel que soit le pays, on annonce les pays en français et dans la langue du pays. Et, alors, tu sais, quand on dit qu'on est sur la Terre, on comprend qu'il faut taire les choses. Et en alchimie, ben, on dit qu'il faut tout transformer en or. Et quelles sont les deux lettres qui forment le mot or?
O-R.
Alors, tu viens de dire de l'eau et de l'air. Ben oui, ça prend de l'eau et de l'air pour faire pousser. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas d'air. Évidemment, ça prend le soleil au-dessus. Alors, le soleil, ça, c'est Dieu le Père. Hein, le roi des Égyptiens. Soleil, des rayons du soleil qui font pousser les plantes, les végétaux. Et, alors, oui, de l'eau et de l'air. Et quand on commence, on est dans la serre,
ouais.
On plante et on contrôle la météo, on contrôle l'eau et l'air, l'humidité, etc., la qualité de la terre dans laquelle la terre-mère. Alors, Dieu le Père, c'est le soleil. Dieu la mère, c'est la terre dans laquelle on met les graines qu'on fait pousser et que ça va grandir. Et arrive un jour qu'on les sort de la serre. Hein, on les sort de la maison, on s'en va les mettre, on va les transplanter dans un jardin à l'extérieur aux intempéries. Et là, ils doivent se débrouiller pour survivre. Alors, ils vont gagner leur pain de soie de leur front. Ils vont enfanter dans la douleur. Oui, ben ils ont été chassés du paradis terrestre de la serre, de l'endroit où on les a cultivés au départ. C'était merveilleux, tout était sous contrôle. Et rendu dans la nature, ben il faut falloir qu'ils se débrouillent. Mais arrive toujours l'intervention du jardinier. Parce que la différence entre les plantes à l'état sauvage et les plantes cultivées, ben ce sont des jardiniers qui interviennent. Et les jardiniers de la Terre, ce seraient ceux qu'on appelle, nous, les extraterrestres.
Ah, d'accord.
Ah, tu me vois venir. Hey, tu ne voyais pas venir. Puis là, mon Bob, j'ai quelque chose à te demander à un moment donné, parce que tu es intervenu deux fois depuis à peu près un mois dans mes émissions. Je te remercie vraiment beaucoup parce que tu as été généreux de ton temps et de l'information que tu nous as apportée concernant le phénomène extraterrestre. Car je t'ai dit une chose, en l'espace de deux ans et demi, Bob, tu es devenu un spécialiste.
Oh non.
Tu les as tous reçus, les grands, tu les as tous reçus. Tu es devenu, oui, tu es devenu un spécialiste dans presque tous les domaines. Tu abordes tous les sujets avec des canons, là, des gens extrêmement compétents que tu vas trier sur le volet, que tu as reçus, et tu as été honnête intellectuellement parce que tu as laissé la porte ouverte à des avenues différentes que d'autres refuseraient totalement. Et ça nous permet, nous, d'être choqués et de se dire, bon, matin, on va écouter pour voir. Et tu réussis toujours à ramener le côté intéressant, instructif, et bon, c'est ça qui est important. Bon, moi, je trouve que c'est un mot simple, là, mais qui en dit beaucoup. Et quand je te demandais, mais oui, mais pour toi, le phénomène extraterrestre, et là, j'ai réfléchi, parce que, écoute, un gars comme toi qui arrive du monde du spectacle, et qui est aussi qualifié de nous répondre avec les notions de physique quantique, etc. Oh, mais c'est dit, ouais. Mais t'es brillant, t'as vite compris, hein?
Oui, oui. J'essaie.
En passant, on parle de spectacle. J'aimerais ça que tu me dises un mot. Est-ce que vous avez suivi un peu The Voice? On avait, nous autres, notre représentant, David Thibault.
Ouais. Non, écoute, alors moi, je regarde absolument pas la télévision et certainement pas The Voice ou toutes ces émissions-là, parce que j'ai beaucoup de difficultés à regarder ces émissions, parce que je les trouve, j'ai beaucoup de mal, j'aime pas du tout. Donc voilà, donc je sais que ça existe.
Les trouves artificielles, est-ce que ça peut être ça?
Je trouve que, en fait, le problème de ces émissions-là, parce que moi, je pense qu'un bon chanteur, et là, on sort direct un petit peu du phénomène OVNI, ben, un bel artiste, un bon chanteur, c'est d'abord une bonne chanson. Et là, ce sont des chanteurs qui chantent pas leurs chansons. Donc, la grande difficulté, rechanter une chanson de Queen, par exemple, c'est bien, mais ça va pas faire de ce chanteur ça va pas lui faire une carrière, tu vois. Nous, on a des chanteurs comme Laurent Voulzy ou Alain Souchon qui sont pas des grands chanteurs, mais qui sont des créateurs. Donc, fatalement, le fait que ce soit des créateurs, ils font de belles carrières. Et je trouve que tout est superficiel parce que des gens qui chantent bien, pour moi, The Voice, c'est du karaoké amélioré. Vous voyez ce que je veux dire?
Intéressant. Oui, oui. J'accepte énormément. Voilà. Nous, ici, on passe un peu l'éponge en se disant ce sont des jeunes talents, alors ils n'ont pas encore l'expérience. Ils sont là juste pour se faire valoir. Chez vous, en France, en tout cas cette année, à The Voice, vous avez eu une chanteuse qui est venue chanter avec sa petite guitare, là, qui est pas tout à fait une guitare, mais quasiment comme une mandoline, et elle fait 4 octaves.
Là. D'accord.
Et ça, ça a vraiment été bouleversant. Moi, j'ai eu des larmes en l'entendant. Et d'ailleurs, les 3 juges qui étaient là, Mika et les autres, là, se sont retournés. Et là, ils ont même réalisé, ils sont 4, ils se sont retournés puis ils ont dit, toi là, ici, on est là pour s'amuser, mais toi, là, tu nous amuses plus. Tu nous as fait passer à un autre niveau de... Elle chantait sur 4 octaves, il faut le faire. Hein,
puis elles sont rares. Elles sont rares. Moi, je me souviens d'une artiste qui s'appelait Pat Benatar qui chantait également sur 4 octaves. Ça a été une star du rock'n'roll. C'était rare.
Hein. Ah ouais, parce que dans le populo, c'est rare qu'ils utilisent ces performances-là. Alors, écoute, donc, on est loin encore parce que... Écoute, encore... Pourquoi ils ont appelé ça The Voice? Ils ont eu des obligations par le producteur qui était américain à l'origine qui a dit « Vous allez appeler ça The Voice ». Mais je sais qu'en France, ils ont beaucoup de plaisir à utiliser la langue anglaise alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se faire dénaturer leur langue qui est si importante, qui est une langue sacrée parce que ça crée quelque chose. Quand tu es sur la voix, tu es sur la bonne voix. Mais quand tu es sur The Voice... t'es dans quelque chose qui commence à rouiller déjà. Alors c'est il faut qu'à un moment donné, la France réalise qu'ils sont en train de perdre leur territoire. Le territoire territorial terrestre, là, mais aussi le territoire culturel. Et ils vont être dans les patates dans pas longtemps, puis ce ne sera pas toujours des patates cultivées. Hein. Ouais. Nous autres, on a comme symbole cette année au congrès UFO 501, monsieur et madame patate.
Ouais.
Mais il y a un message et il y a une symbolique derrière ça. Alors oui, c'est tout un macérage d'informations. Dans un congrès, ça va être de faire travailler le public en même temps qu'on va avoir des invités. On va traiter des sujets et des aspects de ce sujet de l'ufologie de manière originale et intimiste. Et toi, Bob, je te demanderais si tu peux te souvenir de résumer très court perception du phénomène extraterrestre, parce qu'après, il faut que je te dise qu'il y a un piège dans l'ufologie et les gens d'aujourd'hui pensent de la façon dont le phénomène extraterrestre veut qu'on pense. À une époque, on voyait des boucliers dans le ciel. Après, on a vu comme des espèces de vaisseaux allongés comme des dirigeables, juste avant que les dirigeables arrivent dans le ciel. Ensuite, on a vu, maintenant, on dit qu'on voit des boules de lumière. Là. Pourquoi? Parce que là, on est dans la physique quantique. Là. Tu sais, là, tout est rendu photon, lumière, lumineux, etc. Alors, on est manipulé par cette entité ou cette réalité ufologique. Et toi, Bob, tu nous disais que probablement, grâce au propos de certains grands physiciens comme Luminet et les autres, on commence à comprendre. Vas-y, je t'écoute, puis après ça, je vais tirer sur la couverture parce que je pense que Bob est en train de se faire rouler encore dans la farine avec le phénomène extraterrestre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Bob nous parle de ufologie, physique quantique? Parce qu'évidemment, c'est à la mode du jour.
Ah, mais c'est marrant parce que moi j'ai la sensation pourtant avec cette physique quantique que c'est peut-être l'explication, le fait que ce soit peut-être différentes entités qui vivent aujourd'hui sur des fréquences vibratoires différentes, et c'est peut-être même une projection de nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est Jung qui disait ça, une projection du soi, mais il n'est pas certain. Tu sais, j'ai encore revu Interstellar il n'y a pas longtemps, et dans son voyage, le héros s'aperçoit que finalement, c'est lui-même, parce qu'il pense que ce sont des entités qui ont ouvert le trou de verre dans lequel ils vont pouvoir passer, et en fait, il comprend que c'est lui, enfin les terriens, sur un autre plan dimensionnel. Et il n'est pas certain que ce soit... Pour moi, j'aime bien l'idée, en tout cas.
Oui, oui. Ah, ben, écoute, on avance. Je te dis pas que tu fais fausse route. Non. On est amené par ces êtres-là de conscience supérieure à aller dans la voie, dans le chemin qu'ils veulent nous amener par la main. Et on réalise, quand on est intelligent, que avec les nouvelles découvertes que nous faisons scientifiquement ou métaphysiquement ou spirituellement ou psychiquement, on est amené à toujours ramener vers le fameux phénomène qu'on appelle aujourd'hui phénomène extraterrestre ou phénomène OVNI, ou les pans, comme nous dit Xavier Passot, les pans, puis il dit on devrait peut-être appeler ça PANI, parce que le phénomène aérien non identifié, c'est ça. C'est toujours là, et ça a toujours été là dans l'humanité, et ça apportait d'autres interprétations à une époque où on n'avait pas encore toutes les compétences qu'on a aujourd'hui. Alors, ce que tu nous amènes comme interprétation, c'est une interprétation moderne. Et c'est tout à fait légitime et convenable, ton interprétation. Et c'est même partagé avec beaucoup d'autres ufologues maintenant qui commencent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ufologues qui, en cours de route, ont démissionné. Moi, j'en ai connu plein qui avaient toute la vérité, qui avaient la formule, puis qu'à un moment donné, ils s'aperçoivent que, hop, il arrive des nouveaux ufologues, une nouvelle vague, là, des nouvelles générations qui ont des connaissances, des compétences différentes. Et là, ils sentent qu'ils sont mis de côté. Il faudrait qu'ils comprennent qu'à une époque, la religion, c'était ce que c'était et qu'on devrait changer, évoluer. Notre religion doit évoluer. Les pires, c'est ceux qui restent figés dans la forme d'un texte écrit il y a 5000 ans ou 4000 ans ou 3000 ans ou 2000 ans. Ou tu sais, c'est la lettre tue. L'esprit vivifie. C'est ça, l'esprit qui permet de toujours s'adapter en allant puiser dans l'esprit qui avance. Parce que l'esprit, c'est de la vie. La lettre, c'est mort. T'sais. Tout ce qui est un statut, c'est une statue. T'sais. La langue française, c'est tellement dommage de voir que on est en train de perdre notre âme en allant toujours avec le monde anglophone. Parce que le monde anglophone, d'abord, on parlait du secret tantôt. Quand une langue va être parlée partout sur la Terre comme l'anglais, c'est excellent pour le commerce, c'est excellent pour les échanges, ça va vite. Quand on arrive dans un pays, on ne connaît pas la langue du pays, mais au moins tout le monde peut baragouiner un peu l'anglais. On finit par s'entendre, parce que si on n'est pas capable de s'entendre dans le temps, dans le sens auditif aussi bien que dans le sens psychologique, d'avoir une bonne entente, alors on est perdu rapidement. Mais avoir la langue qui est une langue propre, qui n'est pas parlé par tous, nous permet d'avoir des secrets. Et c'est dans le secret qu'on secrète ce qui est sacré. Parce que ça crée, parce que ça crée. Là, j'utilise des calembours, j'utilise la langue des oiseaux en réalité. C'était une langue sacrée qui était très, très connue autrefois sur l'Oreus, le fameux chapeau des pharaons égyptiens. L'Oreus, il y avait toujours le serpent à côté de la tête de l'aigle ou du faucon, de l'oiseau. Et l'oiseau, et ben la langue des oiseaux, c'est partout dans le monde l'oiseau. Et là, on revient encore au phénomène OVNI. Moi, j'aime ça quand tu dis, Bob, le phénomène extraterrestre, OVNI, appelez-le comme vous voulez ou pas, c'est ce qui devrait humainement, planétairement, attirer notre attention. C'est une priorité. Parce que si ça existe, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ça existe, c'est numéro un. C'est la chose la plus importante à regarder. C'est les jardiniers. On est, nous, dans le jardin. On se fait cultiver. On se cultive soi-même. On pousse. On grandit. On a notre petit territoire. On défend nos couleurs. On se défend face au soleil. On veut toujours avoir la place au soleil. Alors, on sait que si la plante qui pousse en avant de nous va nous cacher le soleil, ben, on essaie de se déplacer. La plante ne peut pas se déplacer avec ses racines et prisonnières, mais elle peut quand même tourner, se pencher. On le sait, les plantes vont chercher toujours à tourner leurs feuilles vers le soleil. Hein? Bon. Alors, si on réalise qu'on est dans un jardin et qu'il y a des jardiniers qui viennent s'occuper du jardin, ces extraterrestres qui viennent s'occuper de l'humanité sur la Terre, eh bien oui, c'est la priorité. Alors, je pense que ce qui se prépare maintenant, c'est très étrange, mais c'est une transplantation de plantes. Et les transplantations se font de deux façons. On prend une plante à un endroit pour aller la planter dans un autre endroit. On doit faire attention surtout à ses racines. Parce que si les racines prennent les rayons du soleil directement, elles vont être brûlées par les ultraviolets et puis ça va être fini. La plante ne repoussera pas très bien, elle peut même mourir très rapidement. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dire qu'on doit l'amener dans une autre terre, sur une autre planète, dont les conditions ressembleront aux conditions d'origine. Alors, quand on amène des humains sur une autre planète, on s'arrange pour recréer là-bas un endroit qui ressemble à la planète Terre. Si tu es amené dans un endroit que tu es complètement dénaturé, il n'y a plus rien de repérable, parce que tu perds tes repères physiques, psychologiques. Un ciel à deux soleils, le ciel au lieu d'être bleu est verdâtre, les feuilles des arbres au lieu d'être vertes, les feuilles sont brunes. Les êtres qui sont sur cette planète-là, ben nous on commence à connaître un peu sur la Terre, mais ils ont les cheveux rouges, écarlates. On va dire ils sont fait teindre les cheveux. Non, c'est leur nature d'être comme ça. Alors, il faut faire attention quand on transplante une plante d'un jardin vers une autre terre, une nouvelle terre, comme on dit dans les textes sacrés, sous des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle. Il faut ramener les éléments essentiels de départ pour que la plante ne subisse pas le choc. Alors là, on parlait de l'impact du contact, oui, mais le contact qui s'en vient vers nous, la Terre. Alors là, tu vas comprendre le message à double sens. On dit que l'écologie est en train d'être transformée depuis 20 ans. On voit les pôles, les glaces fondre. On voit le CO2 qui est en train de changer complètement le climat. On est en train de jouer avec les chemtrails. Moi, j'en reviens pas. Les chemtrails, là, il y a encore des gens qui ridiculisent tout ça. Ils disent, ben non, c'est de la condensation des avions. Ouais. C'est drôle, quand on regarde des anciens films des années 50, le ciel était d'un bleu limpide, même s'il passait déjà des avions. Et curieusement, je pense que tu le sais, on demande à Hollywood d'aller, parce qu'on fait de la remasterisation de ces anciens films-là, mm-hmm. et on leur demande de rajouter dans des ciels bleus limpides des traces blanches.
Ah bon?
Oui, monsieur, c'est un scandale. Il y a des gens qui l'ont dévoilé, puis ont montré des prises de vue, des scènes, autant en emporte le vent. Tu vois, le ciel il est d'un beau bleu limpide. Et la remasterisation de ces films-là, on revoit les scènes avec des traces blanches dans le ciel qui ont été obligées de rajouter. Parce que, autant qu'au Canada, l'avocat Rocco Galati me disait, il y a 5 personnes qui contrôlent les médias, autant on peut dire planétairement dans le monde, il y a 5 grandes entités puissantes qui agissent sur les médias, dont évidemment les médias d'amusement comme le cinéma et tout ça, c'est contrôlé. Les sujets qu'on aborde sont traités de manière conforme, conventionnelle. Moi, comme je te disais, de mon côté, la seule émission que j'ai été obligé de retirer des ondes, et puis ça a été vraiment là, très rapide, hein, c'était parce que moi, j'arrivais avec ma cassette directement chez le diffuseur, et puis c'était envoyé en onde 5 minutes après. Personne n'avait censuré, personne n'avait examiné avant. On faisait confiance. Et à un moment donné, l'émission passe. Et je reçois le téléphone dans la nuit. Monsieur Glenn, présentez un autre contenu pour cette semaine. L'émission que vous avez faite est retirée. Ah bon? Et j'ai eu des mises au point très, très, très précises parce que on parlait d'argent. On parlait de prendre le contrôle de la finance. Et ce sont des entreprises privées. Tu sais comme moi que la Federal Reserve Bank aux États-Unis appartient à une entreprise privée, dont d'ailleurs dans les bottins téléphoniques est juste à côté de la Federal Express, qui est une agence privée de porter des colis d'un endroit à l'autre. On est piégé dans une mafia planétaire, et derrière tout ça, il y a des autorités qui ramassent les marrons du feu. Et nous, ben, on n'est que des esclaves et des serviteurs. On va jouer sur notre génétique. On transforme l'écologie de la planète, le climat, entre autres. Et on se demande, mais qui est derrière tout ça? Ben, c'est une colonie extraterrestre qui va s'installer sur Terre et qui a besoin de reconstituer ici, sur cette planète, les mêmes conditions qu'ils ont chez eux, de façon à ce qu'ils ne subissent pas le choc de la transplantation.
Mais Richard, la question que tous les sceptiques vont te poser, c'est est-ce qu'on a des preuves de cela?
Là, tu parles Là, tu parles comme ceux qui disent quelles sont les preuves que les chemtrails, c'est vraiment des produits chimiques.
Mais je suis obligé de te poser la question, Richard.
Ah oui, d'accord, Bob, écoute-moi. Sais-tu, nous, on appelle ça me mettre sous le spot.
Mm-hmm.
Me mettre sous les réflecteurs. C'est-à-dire que je suis pas là pour me cacher, passer en douce, puis filer à l'anglaise, là, en voulant dire, ah, j'ai lancé une mare, une brique dans la mare, et puis bye-bye, je m'en vais. Non, non, je suis prêt à faire face à la musique, et puis je te connais comme un gars qui est extrêmement rigoureux. Alors oui, allons-y. Alors les preuves, d'abord, je vais me défendre en disant, quelles preuves tu es capable d'apporter que les chemtrails, c'est vraiment des produits chimiques? Qu'est-ce qu'on fait? On attend les retombées.
Mm.
Comme, bon, le Christ disait, on jugera l'arbre à ses fruits.
Bien sûr.
Il faut attendre le moment de la récolte. Mais il y a une autre façon de procéder. Si tu joues aux échecs, si tu joues à des jeux de compétition, mais des jeux, comment est-ce qu'on appellerait ça, là, de stratégie,
mm-hmm.
tu peux te servir de preuves collatérales. Moi, je me dis que c'est impossible que la planète, actuellement la planète Terre, soit en train de s'autodétruire. Connais-tu vraiment des gens qui sont en train de s'autodétruire? Oui. Des gens qui ont des problèmes de dépression nerveuse, des gens qui sont dans la drogue et puis qu'à un moment donné, ils savent que là, bon, ben là, ils ne reprendront jamais leur intelligence parce que depuis l'âge de 12, 13, 14 ans, ils fument du pot ou ils sont allés dans de la drogue plus dure. Et à un moment donné, ils savent qu'ils se regardent puis ils voient bien qu'ils n'ont plus l'intelligence qu'ils devraient avoir. Ils ont en perdent des bouts, etc. Alors, dans notre société, dans notre monde, mm-hmm. l'écologie, l'écosystème est en train d'être détruit, puis détruit à tous les niveaux, là, que ce soit les océans même.
Ouais.
On pensait que les océans, ça pouvait servir de poubelle. Toi-même qui fais de la plongée, tu le vois toi-même, les coraux,
mmh. ouais.
ils en souffrent. Bon. Alors, il y a donc quelque chose d'important qui est en train de se dégrader ici sur Terre. Pour quelle raison? À qui ça peut se... À qui profite le crime? Ben, il peut profiter à des êtres. Tu sais, je t'amène cette réflexion très simple. À qui profite le crime? On est en train de tuer la vie, l'écologie de la planète, et on met du fluor dans l'eau potable, on met du fluor dans les pâtes dentifrices, on change les compteurs électriques, ici au Québec on le fait, puis j'ai eu électromécanique par des compteurs électroniques. Et j'ai, moi, des abonnés qui viennent de France et qui m'écrivent, M. Glenn, ça commence ici en France, là. On commence à aller changer partout, là. Et ce sont des compteurs électroniques qui émettent des radiofréquences nuisibles. Vous avez des reportages qui sont faits par la télévision française de très, très haut niveau, de très haute qualité. Curieusement, ça passe une fois, puis après, on les oublie. Parce qu'ils mettent le doigt sur cette transformation de la planète. À qui profite le crime? À des êtres qui ont besoin de retrouver dans l'atmosphère du CO2 en plus grosse quantité que nous. On sait que les sociétés qui vivent à l'intérieur de la Terre, parce que ça c'est mon dada, là, j'ai souvent parlé de sociétés à l'intérieur de la Terre, là, les intraterrestres, qu'on pense être extra, mais souvent ils sont pas si loin que ça, vivent dans une atmosphère qui est différente de la nôtre. Il faut en parler à des spécialistes qui sont allés vivre des expériences, des contacter, c'est ça que je te disais au début, l'impact du contact nous impose à voir le monde d'une autre façon, du jour où tu as été mis en rapport avec ces êtres-là. Et comme toi, tu ne l'as pas été, tu fais bien de ne pas l'avoir été parce que tu ne ferais pas le travail que tu fais de la bonne façon et de la bonne façon. Tu le fais de la manière de celui qui veut comprendre, qui veut trouver, et qui va chercher les gens, puis qui attend toujours les explications. Alors, on est d'accord, toi et moi, que l'écologie planétaire s'en va chez le diable.
Ah oui, c'est sûr.
Bon. Alors, en partant de là, c'est qui le diable? C'est celui qui a été chassé dans les entrailles de la Terre?
Mm.
Bon, et celui qui est obligé de créer des conditions qui puissent arriver en surface dans pas tellement longtemps et prendre le contrôle de la surface de la planète, alors on va voir des choses se changer encore, à moins que les jardiniers qui sont les bons jardiniers,
ouais.
Dieu supervise ce qui se passe ici et qui vont être capables d'intervenir et qui prennent des contacts avec des humains pour leur dire, écoutez, faites connaître la chose à d'autres, parlez-en avec les autres, allumez des gens. Moi, j'ai mon émission depuis 40 ans. Bob, t'es en contact avec la population. T'es unique. T'es dynamique et des gens qui ont soif. ils peuvent aller écouter et boire l'information qui arrive. Parce qu'on l'a dit tantôt, il faut tout transformer en or. C'est le principe de l'alchimie. Mmh. L'or, c'est de l'eau et de l'air. Allez pas nous polluer l'eau et allez pas polluer l'air. On en a besoin, c'est essentiel. Tant qu'on est sous le soleil et sous la terre-mère. On a dit beaucoup de choses, Bob.
Ouais.
Je te remercie de m'avoir laissé beaucoup le temps d'antenne pour parler. On va se retrouver à la fin du mois de mai, là, le 22 mai, avec Bob et Mathieu, pour faire 3 heures de BTLV.
Oui, là-bas. Et... ce sera sur le lieu du congrès, hein,
oui.
C'est-à-dire que dans
exactement.
La salle de conférence. Exactement.
Exactement, toujours. Et ça, c'est à l'hôtel Sandman. On entendait la belle musique tantôt, parce que je vais même l'utiliser au congrès, la musique Sandman, parce que c'est l'hôtel Sandman. C'est à côté de la station de métro de Longueuil. Ça ne dit rien aux Français, là, mais... mais oh, je sais que tu as beaucoup d'abonnés ici au Québec. Alors, ça va être un rendez-vous pour te retrouver. Et à partir de cette semaine où on a fait cet enregistrement de cette émission ensemble, Bob, on retrouve un vidéo de 30 minutes et on voit d'ailleurs beaucoup d'éléments de Bob et BTLV puisqu'on fait tout ça en collaboration et ça nous rappelle aussi les invités du congrès, ton arrivée flamboyante avec le public qui avait tellement hâte de te rencontrer en chair et en os. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent Mathieu aussi.
Ah bah oui.
Parce que c'est un peu comme mon Gilles Surprenant. C'est notre inséparable. Et en parlant de Gilles Surprenant, ben il faut pas oublier que notre entretien qu'on vient de faire est accompagné du complément surprenant, comme à chaque émission qu'on a faite. Autrement dit, tous les propos que j'ai tenus sont appuyés par des vidéos, des textes et des photos. L'avocat Rocco Galati, qui a réussi à confronter la Banque du Canada et qui a gagné le 26 janvier 2015. Vous aurez tous les documents qui vont vous apporter la preuve de ce que je viens de dire. Et là, on a soulevé un peu le coin du contenu du congrès UFO 501. Mais qui? Pourquoi? Il y a des gens contactés et d'autres ne le sont pas. Et qui? Pourquoi? Ces êtres-là s'intéressent et ces êtres-là ont-ils les moyens d'agir dans notre destinée, car c'est pas la même chose que le destin. Le destin, c'est ce qui te pousse dans le dos. Tu peux rien faire autrement, c'est ton destin. C'était écrit, c'était ton plan de route, c'était ton agenda de ta vie, c'est ton destin. Alors que la destinée, c'est ces êtres-là qui la tiennent et qui t'attirent. Et qui viennent te chercher pour ta destinée. Ta destinée vient du futur, ton destin te pousse dans le dos du passé.
Ouais. Richard, merci mille fois d'être venu ce soir. On se rappelle très prochainement, bien sûr, et on se retrouve très prochainement sur l'antenne de BTLV avant le congrès, j'en suis persuadé. On fera un point pour les derniers éléments. 23...
Oui, donner toute la liste des invités.
Bien
ça
sûr.
Sera très bientôt à notre prochaine rencontre, oui.
Exactement, 23 et 24 mai, l'hôtel Sandman, bien sûr, du côté de Montréal. Toutes les infos sont sur le site btlv.fr. Vous cliquez sur le slider qui est la grosse image concernant ce congrès. Ça vous emmène sur le site de réservation. Si vous êtes au Québec, vous pouvez bien sûr réserver vos places pour venir physiquement à l'hôtel Sandman pour assister à ce congrès UFO. Ou alors, si vous êtes quelque part dans le monde, et je sais que vous nous écoutez de quatre coins de la planète, vous pourrez vous procurer un lien vidéo qui vous permettra de nous suivre et de suivre ce congrès de n'importe où, que vous soyez à Honolulu, à Papeete, à Toulouse, à Marseille, à Ouagadougou. Vous pourrez suivre le congrès UFO 501 de chez vous. Merci mon Richard, on se retrouve très prochainement pour avoir la liste complète des invités et à très bientôt.
Merci.
La bise.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.